Vous êtes sur RTL.
Solidaire. RTL Matin.
Yves Calvi.
Et je salue nos invités. Bonjour Renaud Muselier.
Bonjour.
Vous êtes président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et président de nos régions de France. Je salue aussi le professeur Bruno Lina, virologue et infectiologue au CHU de Lyon. Bonjour Bruno Lina.
Bonjour.
Alors,
bonjour.
Oui, lors de son audition hier devant les parlementaires réunis en mission d'information à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a exclu un déconfinement général et esquissé en fait la possibilité d'une levée des interdictions sous certains critères. Bruno Lina, médicalement parlant, ce déconfinement progressif ou par étapes est-il à vos yeux la meilleure solution?
Ce qu'il faut comprendre, c'est à quoi sert le confinement.
Oui.
Le confinement, ça sert à freiner la diffusion du virus, ça sert à permettre par ce frein de diffusion de protéger les plus fragiles, mais de protéger tout le monde aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment un enjeu collectif et je crois que c'est un message qui a été bien passé.
Mm-hmm.
Mais derrière, en parallèle, on va essayer de voir quel est le taux d'immunisation qui apparaît dans la population. Quand on dit qu'on freine la diffusion du virus, ça veut dire que il y a un certain nombre de personnes qui vont s'infecter, que ces personnes infectées vont s'immuniser. À partir du moment où elles sont immunisées, elles ne peuvent plus se réinfecter. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important à bien comprendre. Une personne qui est guérie de cette infection, elle ne se réinfectera pas.
Pardonnez-moi, je vous arrête là-dessus parce que c'est une question qui a été régulièrement posée et ce matin, vous nous apportez une réponse parfaitement claire.
Absolument, absolument. Mais je comptais bien passer ce message aujourd'hui auprès de vous. La deuxième chose, c'est que en étant immunisée, cette personne va empêcher la diffusion du virus. C'est-à-dire qu'elle va jouer le rôle de barrière. C'est comme si finalement, c'était des vaccinés qui vont freiner la diffusion du virus. Et donc, on voit bien que à ce moment-là, il va falloir, à un moment donné, qu'on soit en capacité de dire mais combien y a-t-il de gens qui sont immunisés? Et ça, on a besoin pour ça d'outils. Et ces outils, ils sont en cours de déploiement et c'est des outils qui vont permettre à la fois d'améliorer la qualité du diagnostic. Vous savez qu'on va faire beaucoup plus de diagnostics avec des outils qui vont être extrêmement rapides, extrêmement performants, mais en même temps, on va faire un nombre important de tests sérologiques et c'est là où on va pouvoir commencer à estimer le niveau d'immunisation de la population et quelle est finalement la protection intrinsèque qui a réussi à se mettre en place pour protéger tout le monde. Et ça, c'est probablement un petit peu différent en fonction des régions. Mais pour ça, on a besoin d'outils performants.
Alors, pardonnez-moi, je vous interromps. Le malade guéri est une barrière, venez-vous de nous dire. Je vous ai
absolument
bien compris. Et
absolument.
Du coup, derrière, on va devoir faire des tests et des analyses de toutes sortes, si je vous ai bien compris là aussi, pour savoir qui est quoi, en quelque sorte.
Ben exactement. Et puis après, qu'on ait une idée de la taille du mur. Si
oui.
On considère que ces immunisés sont un mur, si le mur est très haut, le virus ne le franchit plus.
Mm-hmm.
Si le mur est bas, le virus continuera à le franchir. Mais pour ça, il faut qu'on ait un moyen de mesurer la hauteur du mur. Et là, on a besoin de tests diagnostiques, qui sont des tests qui sont extrêmement récents, qui ont été développés en urgence. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, s'ils sont développés en urgence. Mais c'est qu'aujourd'hui, on a un travail considérable à faire sur l'évaluation de ces tests. C'est un travail qui est fait en grande partie au sein du Centre National de Référence et avec le partenariat de l'Institut Pasteur, qui est très fort dans cette affaire. Et on va essayer d'imaginer finalement l'outil idéal, de comparer cet idéal avec les outils commerciaux pour qu'on utilise le meilleur oui. outil commercial et qu'on soit capable de dire à chaque individu, vous êtes protégé, vous ne l'êtes pas.
Donc
vous
au même moment,
immunisé, vous ne l'êtes pas.
Au même moment, on va croiser, si je vous suis bien là aussi, un objectif de recherche et de performance, puisqu'on travaille sur l'établissement de ces tests, et en même temps, on continue de faire de la mathématique et de la statistique.
Absolument, absolument. Et c'est sur la base de ces données-là, plus les expériences acquises par les pays à l'étranger. On regarde très près ce qui est en train de se passer en Chine. On surveille aussi ce qui se passe à Singapour, en Corée. On surveille ce qui se passe aussi chez nos amis européens. Et en combinant l'ensemble de ces informations, qui sont observationnelles quand on dit on regarde ce qui se passe en Chine, on regarde ce qui se passe à Singapour, et les données très factuelles de ce que l'on va collecter à partir des prélèvements qui sont faits en France, on pourra à ce moment-là dresser l'équation qui permettra de dire comment faire.
Je ne veux pas être chagrin, mais on est immunisé pour combien de temps? Parce qu'une une infection peut revenir. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec la grippe. Alors, je sais qu'on ne doit pas comparer la grippe à la crise du coronavirus, mais quand même, il est difficile de ne pas y penser.
Alors, en fait, la grippe, le problème de la durée de l'immunité de la grippe, c'est lié au fait que le virus varie énormément.
Oui.
Et puis qu'il n'y a pas une grippe, mais il y en a quatre. Donc là, on n'a qu'un seul virus qui ne varie pas. Donc, pour ce point, là aussi, c'est quelque chose qui est important. Ce virus, il est stable. Hein, il n'évolue pas. Il n'y a pas de micro-groupe de virus qui sont plus dangereux, plus virulents, plus pathogènes, plus diffusant mieux. Ils sont tous très homogènes et se comportent tous pareil. Donc, à partir de là, on peut extrapoler des choses. Alors, sur la question que vous posez, combien de temps est-on immunisé?
Oui.
On est immunisé au moins sur le moyen terme de façon assez robuste. Hein. C'est-à-dire qu'une personne qui est infectée maintenant, dans 6 mois, il est très probable qu'elle sera encore protégée, et probablement dans 1 an ou 2 ans. Qu'en est-il d'une immunité dans 5 ans ou dans 10 ans? Personne ne le sait. Personne ne le sait.
Vous restez avec nous, Bruno Lina, et merci de toutes ces précisions vraiment formidables que vous nous apportez ce matin. Renaud Muselier, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes à la fois à la tête de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais que vous représentez aussi toutes les régions de France à travers l'association que vous présidez. Est-ce que vous travaillez, vous les régions en ce moment, aux différentes hypothèses de déconfinement?
Oui et non. Enfin, oui, notre problème, c'est qu'on travaille tous ensemble, les régions de France. Mais nous, on a un problème qui est autrement... des confinements, c'est qu'on a le problème de prendre les patients des pics de souffrance dans les régions directement impactées, dans des régions aussi où nous attendons directement le pic.
Oui.
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas encore entré dans le pic, et nous avons libéré nos réanimations et nous pensons être très limites. Aujourd'hui, on essaye d'aider, sous l'autorité de l'ANS, avec nos ARS, le déplacement des différents patients. Donc, le déconfinement, on en a pour 2 mois, cette histoire, on a le temps de s'y préparer. Aujourd'hui, on est en train de se préparer à une urgence de vitale, de survie de nos populations sur nos propres territoires avec le matériel qui manque. Donc le débat sur le confinement, déconfinement est passionnant. Je pense que je suis parfaitement d'accord avec le professeur qui vient de s'exprimer. Il suffira de voir ceux qui ont 3 mois d'avance et d'expérience pour ne rien réinventer, mais faire exactement la même chose et l'adapter en fonction de la société française qui est un peu différente de la société de l'Asie. Mais pour autant, nous, notre problème aujourd'hui essentiel, c'est est-ce que nos réas sont prêtes? Est-ce que le matériel est là? Est-ce que nos populations peuvent être protégées? Est-ce que la première ligne avec les soignants est parfaitement en capacité de travailler sans se faire contaminer? Et est-ce qu'on peut protéger leurs familles et faire en sorte que tous ceux qui sont en deuxième ligne, c'est-à-dire les caissières, le roulement quotidien de notre vie économique qui est en train de s'écrouler, fonctionne? Et parallèlement à ça, nous sommes en train d'essayer d'aider et d'ailleurs avec le gouvernement, et nous mettons chacun nos outils en place. Et moi, j'ai mis en quelque sorte un plan Marshall en place hier, 1,4 milliard d'euros pour les TPE, pour faire en sorte qu'on n'ait pas un désastre économique. Alors, vous savez, le déconfinement, il est visible je ne sais quand, oui. Mais les ennuis sont immédiats.
Ben c'est très intéressant d'entendre vos deux interventions successives. C'est que vous nous dites, vous, Renaud Muselier, on a les pieds dans la glaise et on attend que le pic nous tombe dessus aussi en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec toutes les difficultés qui sont les nôtres en ce moment. Le déconfinement, on y pensera plus tard. Et en même temps, on est obligé de se projeter parce que ce que nous apprend cette crise, c'est qu'il faut essayer d'anticiper un certain nombre de choses, mais tout n'est pas anticipable. Moi, je voudrais savoir ce dont souffre le plus au moment où nous parlons votre région, et je rappelle Renaud Muselier, par ailleurs, que vous êtes vous-même médecin.
D'abord, on a un problème, oui, c'est exactement, je suis médecin, et donc, c'est deux problèmes, quoi. Dans mon activité professionnelle que je dis, je suis directeur d'un établissement hospitalier privé,
oui.
250 lits, c'est 400 personnes, c'est 15 000 patients par an. Donc on a libéré les lits pour la fluidité avec l'ARS et le plan blanc a été mis en place. Tout ça est tout à fait respecté avec le privé, le public, on se fonctionne très bien ensemble.
Ça marche bien ensemble, public, privé en ce moment, c'est important que vous nous le disiez.
Ah oui, non, nous on est parfaitement en phase, c'est-à-dire que les cliniques privées ont libéré les réanimations.
Le privé, on sait qu'il est en place. On s'interroge parfois sur le fait que les agences régionales de santé jouent vraiment le jeu.
Non, là, chez nous, en tout cas, l'ARS est parfait, on est en phase région ARS, et hôpitaux publics et hôpitaux privés, on est en phase. Nous, on a plutôt un problème par rapport à la stratégie de dépistage et de traitement. Nous, on est ici tous pro-protocole Raoult, et on estime que c'est celui qui doit être mis en place le plus vite possible, parce que ça apporte une vraie réponse. Bon, alors celle-là, c'est une médecine d'urgence, elle est critiquée par l'Académie, bon peut-être, mais en attendant, nous on a besoin d'avoir des réponses immédiates, parce que comme vous l'avez souligné, on est face aux patients, face aux familles, face à la souffrance, à la mort, comme les autres d'ailleurs en France d'ailleurs, Mais nous, on a fait un choix qui est un peu différent. C'est que nous, on veut dépister le plus possible et on a besoin du matériel pour dépister. On veut soigner tout de suite et ça, c'est pas l'accessibilité possible de ce médicament là-dessus. Et on veut profiter de la situation d'un pic moins élevé parce que pris plutôt en amont pour justement avoir bien anticipé cette crise. Donc là, on est dans une stratégie de santé publique un peu différente.
Bah, c'est très clair. Professeur Lina, je me tourne à nouveau vers vous, parce qu'on doit maintenir ce dialogue entre ceux qui affrontent la crise au moment où nous parlons et ceux qui préparent la sortie de crise. Est-ce qu'il y a une date qui vous paraît plausible pour le début d'une levée de confinement ? Je vais le dire autrement, combien de temps doit encore durer le confinement strict pour avoir des effets bénéfiques ? Voilà.
Ça va pas vous plaire ce que je vais vous répondre. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce qu'il est important, c'est d'arriver à un état stable. Et cet état stable, il est nécessaire partout en France. C'est là où justement les messages qui passent autour du confinement actuellement, et surtout le fait que le ressenti de vacances scolaires, parce que ça va être plus un ressenti qu'une réalité, risque d'amener des mouvements et des gens qui bouge d'une région à l'autre, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Parce que si on veut justement stabiliser la situation, il faut que les risques qui existent à un endroit 1 restent identiques à celui de l'endroit 1 et ne basculent pas vers l'endroit numéro 2.
Donc on est solidaire une fois de plus.
Exactement.
Même à l'échelle d'un territoire comme la France.
C'est très important. C'est très important parce que ça risque de nous faire perdre du temps par rapport au moment où on pourra déclencher justement la suite des événements. Donc il faut qu'on stabilise. Il faut qu'on arrive à avoir l'ensemble des données qui nous permettent de prendre une décision rationnelle. Oui. Cette décision, on sait qu'elle est compliquée. On a plus on est rapidement en stabilité, plus on arrivera à évoluer vite dans les stratégies de confinement. Donc c'est ça qui est très important. Et puis il faut bien comprendre que ça marche quand même bigrement bien, et les mesures d'hygiène et les mesures barrières aussi, parce que si ces mesures barrières et d'hygiène n'existaient pas ou ne marchaient pas, ce serait pas quelques soignants qu'on aurait de malades, mais ce serait l'ensemble des soignants qui seraient malades. Or, moi je discute assez régulièrement avec des gens qui sont en réanimation. Je discutais encore il y a deux jours avec un patron de réanimation de Paris. Il m'a dit que dans son personnel, alors qu'il a un nombre de lits astronomique, aucun de ces personnels n'a été contaminé. Ça prouve bien que même quand on est au contact d'un patient, de nombreux patients qui excrètent des quantités importantes de virus, si on applique les mesures barrières et les mesures d'hygiène comme il faut, on n'est pas infecté. Donc ça, il faut vraiment que ça soit encore plus approprié par l'ensemble des Français.
Et qu'on a le matériel pour le faire, ce qui amène ma dernière question à Renaud Muselier, sur les pratiques visiblement très cavalières des États-Unis, qui sur le tarmac en Chine achètent à prix d'or des masques de protection que la France attendait. C'est une pratique inquiétante et semble-t-il c'est récurrent. Est-ce que vous avez bien été confronté à cela, Renaud Muselier ?
Oui, nous avons, nous, avec les régions de France, un contact permanent entre président de région. Nous avons eu la possibilité, grâce à la loi qui a été votée, de faire des commandes à l'international et donc de pas avoir une réquisition de l'État français. Nous avons donc chacun, dans nos réseaux respectifs, essayé de trouver des filières qui ne sont pas truffées d'escrocs. Nous avons trouvé des usines avec le soutien de l'ambassade de France en Chine qui soient les plus fiables possibles. Le problème qui se pose, c'est que nous payons en forme de trois tiers. D'abord, on paye en France et jamais à l'étranger. On paye à la commande un tiers à la sortie d'usine et un tiers à la réception de la marchandise pour la vérifier. Et là, ça pose une difficulté, c'est qu'il y en a qui payent cash à la sortie de l'usine ou sur le tarmac. Et donc là, on se retrouve dans un nouveau problème à affronter pour absolument sécuriser le logisticien qui se doit de ne pas pouvoir se faire acheter et l'industriel qui ne doit pas succomber à la tentation parce que la pression en Chine est exceptionnelle.
Donc votre problème, c'est un, de ne pas vous faire piquer vos masques et ensuite de pouvoir les faire venir en France.
Affirmatif. Ouais, c'est exactement notre difficulté. Enfin, ça rentre quand même. Hein. Donc, on a au fil du temps sécurisé nos
filières. Mais comment vous faites ? Vous devez rajouter de l'argent à la sortie du camion qui s'appelle un avion ?
Non, on ne peut pas rajouter de l'argent. Nous, on passe une commande et puis on...
Ah, alors, ce sera hélas notre rupture de faisceau quotidienne. Mais on a compris que Renaud Muselier était inquiet, mais qu'il nous disait qu'il arrivait à rapatrier des masques dans sa région PACA. Merci infiniment, en tout cas, au président de région et au professeur Lina, qui, une fois de plus, nous a donné des éléments parfaitement clairs sur la situation en ce moment.